Voilà, comme c'est la fête des pères, on va prier pour les pères tout à l'heure. J'ai ce message de circonstance sur le rôle du père, des pères chrétiens. Comme je le dis souvent, et je le crois profondément, que le rôle du père a toujours été, et il est toujours plus difficile que celui de la mère, qui lui est plus instinctif, hein, à cause de sa morphologie, de sa manière effectivement de porter l'enfant, en tout cas par rapport aux enfants. Et en plus, le diable s'attaque particulièrement à la figure du père, tout simplement parce qu'il veut donner une mauvaise image du Père céleste. Et vous savez que on est des êtres humains, on est des créatures, on n'est pas des anges, hein. Et donc, on est sensible, bien sûr, à l'image naturelle de ce qui nous entoure, des choses qui nous entourent, et des pères, des mères, et tout ça. Et donc, ça nous influence. Et si on est mal influencé par des pères naturels, eh bien, on projette souvent sur le père spirituel, le père céleste, ces mauvaises images. Donc, le rôle du père est très important, très difficile, mais pas impossible. Tout simplement, il faut compter sur la grâce du Seigneur. Le père, tout d'abord, avant d'être père, il est mari, hein. A priori, c'est une évidence. Mari de sa femme, avant d'avoir des enfants. Et à ce titre, je ne vais pas reprendre le passage, mais dans Éphésiens 5, hein, c'est un classique, Éphésiens 5 précise comment le mari doit se comporter, quel est le rôle du mari par rapport à sa femme. Et là, les exigences sont très très élevées, puisqu'il est dit que le mari doit se comporter comme Christ s'est comporté avec l'Église. Et Christ, on sait qu'il a donné sa vie, il est mort pour son Église. Donc ça veut dire que le mari doit mourir pour sa femme. En quelque sorte, c'est une exigence très forte, hein, qui est de donner sa vie. Donc, si vraiment le mari fait cela, la femme ne peut que répondre dans l'amour, hein, parce que voilà, être aimée comme ça, c'est très fort. Donc, je pense que personne n'y arrive, hein, mais en tout cas, c'est un objectif à atteindre, hein, d'après la parole. Il doit aimer sa femme comme sa propre chair. Hein. Vous voyez, donc là aussi, notre passage nous dit cela. Donc, c'est un amour très fort. Puisque sa propre chair, eh ben on la détruit pas, sinon ben on est fou. Mais aimer sa femme comme sa propre chair, c'est vraiment en prendre soin avec beaucoup d'attention, beaucoup de délicatesse. Donc en faisant cela, le mari prépare, se prépare en tout cas à être un père selon le cœur de Dieu. Vous voyez? Donc déjà, avant d'avoir les enfants, s'il se prépare dans cette attitude, le rôle du père va en être facilité. Et il se prépare à être père en permettant à sa femme, qui se sent aimée, acceptée, de lui faciliter le rôle. Justement, comme le rôle n'est pas facile, hein, il faut que c'est mieux de faciliter un rôle. Hein. Si vous mettez des bâtons dans les roues d'un rôle qu'il faut s'imposer, alors là, ça ne va plus. C'est comme ça que les problèmes commencent, le problème des pères. Hein. C'est que souvent, le rôle n'est pas facilité. Hein. Donc, n'étant pas facilités, ils ne le font pas bien parce qu'ils sont obligés de contourner des obstacles. Hein. Vous avez déjà fait des parcours d'obstacles? À un moment donné, vous êtes fatigué. Hein. Vous préférez vous reposer. Hein. Donc, les obstacles, ce n'est pas forcément ce qu'on aime. Et effectivement, un père qui a des obstacles sans arrêt par sa femme concernant les enfants, eh bien, il ne va pas y arriver. Donc, il faut faciliter le rôle. Mais pour le faciliter, il faut que le père, le mari, aime sa femme pour que la femme ait envie de faciliter son rôle. Vous voyez, c'est le problème de la réciprocité, hein, qui est important. Pourquoi? Parce que le père a un rôle, disons, qui est transitoire, hein, pour l'enfant. Enfin, transitoire. Il est délicat, voilà. Délicat, parce que jusqu'à la majorité, il doit accompagner l'enfant dans une phase où tout le temps il doit s'adapter. Il peut pas être voilà, il peut pas avoir une seule attitude. Il faut qu'il soit adapté. J'en parlerai un peu tout à l'heure. Tout cela parce que pendant tout son rôle de père, il doit aider l'enfant à quitter sa mère, voyez, et à quitter le foyer. Donc c'est très difficile d'avoir un rôle d'aider l'enfant à quitter. c'est plus facile de s'attacher. C'est pour ça la mère qui s'attache, c'est quelque chose de plus naturel, mais c'est antibiblique. Vous voyez, et donc, voilà, c'est pour ça que l'aspect naturel des choses conduit à des catastrophes. C'est pour ça qu'il faut être spirituel. Et il faut s'attacher au Seigneur pour pouvoir le faire. Donc ce rôle est difficile parce qu'il doit aider l'enfant à quitter le lien parental pour être capable d'avoir un lien conjugal plus tard avec son époux, son épouse. Alors il faut se rappeler que les enfants ne nous appartiennent pas, c'est très important. En l'oubliant, on s'attache aux enfants comme si c'était notre propriété. Or, la Bible conçoit que les enfants nous sont prêtés. Un des exemples que vous connaissez bien, c'est Anne hein, qui a eu Samuel et elle a reconnu qu'il appartenait à Dieu et elle l'a donné à Dieu en l'amenant dans le temple, etc. On voit effectivement cette capacité d'Anne à élever Samuel dans une attitude de devenir un homme de Dieu, non pas en le protégeant sous sa jupe, mais en le donnant au Seigneur. Le vrai Père est le Père céleste qui nous connaît avant même que nous n'ayons été conçus. C'est lui le véritable propriétaire. Notre propriétaire, c'est le Père céleste. Ce n'est pas le Père naturel, ni la Mère naturelle, ou les parents biologiques. Et ce rappel nous aidera à relativiser notre autorité. Voyez-vous ? De ne pas se prendre pour Dieu en tant que parent, mais à relativiser et à compter sur le Seigneur pour élever les enfants. Le deuxième point problématique pour le père, le rôle du père, c'est que le père doit s'adapter à chaque âge de l'enfant et à chaque personnalité de l'enfant. Chaque enfant est différent. Il réagit différemment à des corrections, à des instructions, voilà. Donc tout ça, c'est une adaptation constante et il faut rechercher le Seigneur pour cela. Pendant l'éducation donc, de l'enfant, il faut avant tout donner envie à l'enfant de s'attacher à Dieu. Vous voyez, donc la perspective, ce n'est pas de l'éduquer pour l'éduquer, mais c'est de l'éduquer de manière à ce qu'il s'attache à Dieu et qu'il approfondisse sa foi. Sinon, nous aurons perdu le plus important de notre éducation chrétienne. Nous aurons peut-être fait des enfants qui disent bonjour à tout le monde, qui sont gentils, on nous félicite et tout ça, mais qu'est-ce que c'est pour l'éternité hein ? Ce qui est important, c'est que ce soit des hommes et des femmes de Dieu. Donc il faut beaucoup de sagesse et surtout la grâce de Dieu. Le père doit faire preuve de beaucoup de souplesse, ce qui n'est pas forcément facile. Hein, pour moi, ce n'était pas facile parce que je viens d'un milieu germanique. Hein, et je peux vous dire que mon grand-père, c'était quelqu'un. Hein, mon père déjà assoupli, mais ce n'était pas ça. Hein, et moi aussi, j'ai hérité de tout ça. Donc, on combat aussi nos propres héritages. Mais on a la parole pour nous aider à changer et à voir autre chose. Donc beaucoup de souplesse, c'est la qualité de notre Père céleste. Est-ce que, réfléchissez un instant à la manière dont votre Père céleste agit avec vous. Est-ce qu'il est rigide hein ? En tout cas, le témoignage de Colette montre qu'il ne t'a pas tapé dessus. Hein ? Il était très souple, il a attendu 10 ans. Alors que tu avais la parole, tu avais, voilà. Et pour chacun de nous, on peut reconnaître cette souplesse de notre Père céleste qui attend, comme le Père du Fils prodigue qui attend, mais qui est prêt à nous recevoir. Voyez, il est toujours prêt à nous recevoir, pas à nous, pour nous gronder, mais pour nous faire la fête. Mais c'est à nous de faire le pas. Donc cette grande souplesse de notre Père céleste doit être pour les pères naturels un exemple. On sait aussi que l'enfant a des besoins différents tout au long de la croissance. Je vais donner quelques repères, hein, que je ne suis pas du tout spécialiste en développement de l'enfant, mais on sait qu'il y a différents stades. Par exemple, de 2 à 7 ans, hein, de 2 à 7 ans, la relation avec le père est naissante, hein, puisque c'est la relation avec la mère qui est naturelle. Pendant déjà les 9 mois de grossesse et ensuite après l'allaitement et tout ça. Donc, à partir de 2 ans, la relation avec le père commence seulement, hein, très tardive. Et l'enfant a besoin d'expérimenter de nouveaux horizons à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas, comme avant, attaché à la mère naturellement, parce qu'il n'a que ses besoins pour survivre. Mais là, il veut commencer à explorer. Il commence à se gambader, à chercher voilà, quel est son environnement, etc. Donc le père arrive à ce moment-là, alors qu'il explore. Il n'explore pas pour trouver le père, il explore pour trouver ce qui est autour de lui. Et il a soif de découverte, de connaissance. Et souvent, aussi bien les petites filles que les petits garçons se tournent bien sûr vers leur papa, développant une relation privilégiée en vue de la découverte. Ils aiment bien découvrir. On fait sauter l'enfant, voilà, et il découvre un tas de choses avec son papa. À partir de 7 ans, le papa devient le héros. Alors, c'est super, hein. Voilà, c'est le héros, hein. Mon papa, on raconte à l'école tout ce qu'il fait, hein, Olivier, on montre des photos, mais c'est normal, hein. C'est comme ça que l'enfant se développe. C'est leur modèle, hein, le protagoniste de leur vie imaginaire, notamment pour les garçons, hein. Mon papa, c'est toujours s'il grimpe pour mur, hein, il va chercher des trucs impossibles. Et les petites filles, quand elles découvrent souvent à cet âge leur diversité par rapport au papa et par là même la similarité avec la maman, donc la découverte sexuelle aussi. À la préadolescence, hein, 8 à 10 ans, les rapports avec les parents en général prennent une autre tournure, notamment avec le père. L'incompréhension est souvent de mise, hein, pour l'enfant, le père, les parents en général ne comprennent rien. Avant, c'était le héros, maintenant, ils ne comprennent plus rien. Ah oui, parce qu'il y a tellement d'influence à l'école. Ils se trompent. Ah bah oui, parce que hein, mon copain, ma copine m'a dit, son père m'a dit, voilà, donc ils se trompent. Et là, c'est le moment de recadrer la relation, et ce n'est pas facile. Hein. Recadrer, créer des nouveaux rapports, redéfinir les rôles, c'est un peu ingrat, mais c'est nécessaire. Les espaces de liberté, d'intimité réciproque doivent être respectés. À ce moment-là, les règles et limites doivent être à nouveau définies. Les besoins d'autonomie et de dépendance des enfants doivent être pris en compte, tout comme leur autonomie et leur responsabilité. Vous voyez, ça devient plus compliqué, puisque c'est des petites personnes qui se développent. Le père doit se repositionner comme soutien. Vous voyez, donc, ce n'est plus le héros, c'est le soutien pour l'enfant en proie à des doutes. Un père qui saura valoriser les capacités de son enfant, de son individualité, tout en imposant des limites. Donc le père joue un rôle fondamental dans la formation de l'identité de la personne, sociale et bien sûr relationnelle de son enfant. C'est là que, en dehors de la Bible, les Juifs qui ont été de tout temps dans cette structure sémitique, c'est-à-dire la manière d'aborder les choses de manière concrète et pas de manière intellectuelle. Vous voyez toute la différence entre les Grecs et les Juifs. Les Grecs abordent les choses de manière spéculative, intellectuelle. C'est-à-dire on cherche les choses en elles-mêmes, puisqu'ils ne connaissent pas Dieu, les Grecs. Enfin, les Grecs, c'est les païens, si vous voulez. À l'époque, les Grecs, aujourd'hui, on dirait les païens, c'est tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Qui ne sont pas le peuple de Dieu, et ils cherchent la sagesse par leur propre force. Et à ce moment-là, ils cherchent en elles-mêmes, dans les choses elles-mêmes, donc c'est de l'idolâtrie, donc dans la sagesse, ils cherchent la raison d'être des choses. Hein. Donc effectivement, on va dans l'inconnu, là. Tandis que les Juifs se servent de la Bible. Pratique, chose pratique, voilà. On cherche, on reste pratique, on n'a pas besoin de spéculer, c'est écrit qui est Dieu, qui, etc. Mais on cherche les choses pratiques. Donc les Juifs, à l'âge de 13 ans, le père prend en particulier le garçon avec lui, là où il va, pas dans toutes les réunions, mais dans la plupart des réunions où il va, de manière à ce que le garçon puisse commencer à expérimenter la vie d'adulte. À côté de son papa. Voilà. Donc, voilà, dès qu'il a fait la bar mitzvah, il commence à l'intégrer déjà dans la vie sociale, pour l'initier, pour l'aider à voir quels sont les rapports, comment on se comporte, etc. Vous voyez, donc cette intelligence du père, c'est rare qu'on le voit dans notre société. J'aimerais bien voir des hommes le samedi matin venir avec leur garçon. Ouais, ça se voit pas. Hein. C'est dommage parce que voilà, c'est ça fait partie. Vous voyez, plus que de faire des sermons, plus que de parler, eh bien voilà, tu expérimentes. Comment ça se passe? À l'adolescence, alors là, période très difficile, rapports avec les parents deviennent compliqués, pour pas dire autre chose, car l'enfant remet en cause les enseignements, hein, qu'il a reçus. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Si l'enfant veut devenir adulte, il faut qu'il se fasse sa vision du monde, ce qu'on appelle le paradigme, la manière de voir les choses, qu'il se l'approprie. Pour se l'approprier, la meilleure des choses, c'est de le remettre d'abord à plat, et ensuite de se l'approprier. Et si c'est quelque chose de bien, eh bien l'enfant reprend le paradigme des parents. C'est pour ça qu'il faut être un modèle avant. Mais si ça ne l'est pas, il va se porter vers autre chose. Et c'est là qu'on perd l'enfant. Alors, au lieu d'avoir peur de le perdre et de s'agripper à lui, ça c'est vraiment très mauvais, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est de le laisser remettre en cause, sachant que nous, on doit être sûr de notre vision du monde, qu'elle est biblique. Et à ce moment-là, qui va le choisir? Vous voyez, donc là, c'est une question de foi et une question d'identité personnelle. Donc c'est normal qu'il se réapproprie les choses, et le père doit donner à l'enfant les possibilités de cette réappropriation et de cette autonomie dans un cadre de vie affective équilibré. Il ne faut pas qu'il se sente obligé de chercher ça ailleurs, parce que dans le foyer, eh bien, il y a conflit, il y a difficulté, etc., et puis il va chercher ailleurs. Arrivé à la majorité, alors là, voilà, bascule, hein, on bascule. L'enfant doit être capable de voler de ses propres ailes à ce moment-là. Il doit être capable. Donc il faut le préparer avant. Je dis bien en dehors des aspects financiers, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, à une certaine époque, à 13 ans, il y en a qui avaient un certificat d'études, ils travaillaient déjà. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, parce que c'est pratiquement interdit, je crois. Pardon? 16 ans? C'est interdit? Enfin, je ne connais pas trop les lois, mais je sais que c'est plus possible à 13 ans. Mais à la majorité, bien souvent il est dépendant financièrement. Mais le père ne doit plus être qu'un vis-à-vis, qui prodigue des conseils, certes, mais qui laisse l'enfant opérer ses choix, c'est-à-dire qui l'accompagne dans ses choix, qui ne laisse pas tomber, mais qui lui donne la possibilité de faire les choix en supervisant, mais pas en contrôlant. Bien sûr, si l'enfant, la majorité, n'est pas indépendant financièrement, des règles s'imposent, hein, pour éviter que les parents ne soient que des pourvoyeurs financiers. Mais au niveau de relations sociales, l'enfant doit avoir son autonomie et commencer à assurer ses responsabilités. Donc, durant tout ce développement de l'enfant, non seulement le père devra être souple, s'adapter à chaque enfant, à chaque étape de croissance, mais il devra aussi gérer la difficulté de la mère qui doit quitter l'enfant. C'est le fameux pot au mitan dont on a parlé ces derniers temps. Et c'est très difficile pour elle. Si elle n'est pas affermie dans le Seigneur et qu'elle n'a pas compris que l'enfant lui est prêté pour un temps et qu'elle doit avoir ses propres projets et que l'enfant n'est pas un projet en soi, que son projet doit être avec son mari dans un autre cadre pour servir le Seigneur. Donc la mère qui est blessée, et qui a été blessée elle-même par la situation précédente, ça sera encore plus difficile pour elle. Et donc tout ça, le père doit le porter. Il ne doit pas se dessaisir de ses difficultés, il doit l'affronter. Il doit affronter les problèmes de sa femme avec tous ces problèmes-là. Sinon, ce n'est pas un vrai père, ou un vrai mari. Donc cette problématique n'est pas évidente, mais si elle n'est pas assumée, ben, l'enfant ne pourra pas rentrer dans ses projets, c'est tout. Et on perdra le projet, l'enfant perdra tous les projets lui-même de son avenir. Et c'est comme ça qu'on souvent on reproduit des choses sans même s'en rendre compte de malédiction d'une génération sur l'autre. Le père devra être fort et exercer son autorité pas son autoritarisme. L'autoritarisme, c'est l'amour de l'autorité. Là, on n'est pas dans l'amour de l'autorité, dans l'idolâtrie. On exerce l'autorité qu'on a reçue et donc empêcher que la mère soit potomite. C'est tout un programme. Mais Dieu a donné au Père la capacité de ce rôle. Vous voyez, Dieu ne fait pas les choses au hasard. Il a donné la capacité de ce rôle, entre autres, parce que le Père peut se séparer de ses émotions. La femme ne peut pas. Les cerveaux de la femme sont tellement reliés, elle a une capacité d'intuition, une capacité énorme de faire des choses que l'homme ne peut pas faire. Mais l'homme a très peu de liens entre les deux cerveaux, ce qui fait qu'il peut se séparer de ses émotions pour gérer les choses de manière plus rationnelle avec sa raison. Et Dieu le fait exprès pour que l'homme assume cette responsabilité de décision, de choix, et de le partager, non pas de l'imposer, de le partager. Et si ce n'est pas fait, la femme est dépourvue. Et donc c'est aussi une responsabilité du père que de ne pas le faire, c'est de laisser la femme dans son vague à l'âme, quoi, qu'elle ne peut pas gérer. Regardons maintenant l'aspect de l'instruction de l'enfant. Dans la parole de Dieu, le plus grand commandement dans les Écritures, c'est dans Deutéronome. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome 6, 5. Mais si on revient sur les versets 1 et 2, tu dois aimer, etc. On peut lire, voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Voyez, la recommandation, ce n'est pas une recommandation philosophique ou spéculative de chercher la sagesse, c'est mettre en pratique les lois qui sont écrites. On n'a pas besoin de spéculer sur les lois, il faut les lire, il faut les connaître, et il faut les mettre en pratique. C'est tout simple, voyez, c'est de la pratique. Verset 2, afin que tu craignes l'Éternel. Vous voyez, il y a une raison à cela. C'est afin que tu craignes. Dieu ne demande pas des choses pour les demander. C'est parce qu'il y a une raison. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie. En observant tous les jours de ta vie, pardon, il y a des virgules. Toi, ton fils et le fils de ton fils. Et donc toutes les générations, les enfants, les petits-enfants, etc. Ces lois et tous ces commandements que je te prescris. Et là aussi, il y a une raison. Dieu ne le demande pas juste pour cela. C'est pour que tu connaisses le bonheur. Oui. Pour que tes jours soient prolongés. Pour que tes jours soient prolongés. Qu'est-ce que ça veut dire, pour que tes jours soient prolongés? Vous savez, il y a des jours qui peuvent être abrégés. Alors, je ne parle pas de l'accident. Hein, mais les enfants peuvent abréger les jours des parents. Vous le savez, ça. Les soucis, les problèmes, les machins. Vous voyez, quand vous êtes dans le bonheur, vous aimez le bonheur, vous? Qui n'aime pas le bonheur? Personne. Mais le bonheur, c'est... Pardon? Un joke. Qui n'aime pas? On aime tous être heureux, dans la paix, tout ça. Tout le monde rêve de ça. C'est possible. Avec les enfants. Quand il y a de la clarté dans les communications. Quand il y a cette recommandation qui est assurée et le rôle du père qui est assuré, arrivé à l'âge adulte, eh bien vous pouvez avoir non seulement des relations apaisées avec les enfants, mais des relations constructives. On le verra à la fin. C'est-à-dire vous pouvez prolonger vos jours au travers d'eux. C'est encore plus extraordinaire. Vous pouvez déjà voir avant votre mort ce que les enfants vont faire. C'est pas extraordinaire et ça vous rend heureux, ça. Ça, c'est l'objectif que Dieu donne. C'est pour ça qu'il dit, tu prolongeras tes jours. Si tu fais ça. Alors, les versets d'après disent ceci. Les commandements que je te communique aujourd'hui demeureront gravés dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi ou quand tu marcheras le long d'une route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'est un programme extraordinaire. Relisez ces paroles du Deutéronome. C'est simplement une. Comment on appelle ça? Une feuille de route. Voilà. Une feuille de route. Est-ce que j'ai fait ça? Vous partez en vacances? Voilà, je vais instruire l'enfant. Mais vous voyez, l'instruction, c'est pas. Ouais, t'as vu, c'est pas de la morale. Hein. C'est pas dire. Ouais, il faut faire ça. Ouais, tu fais pas. Voilà. Alors là, vous dégoûtez l'enfant. Hein. Mais vous dites, regardez le beau paysage, c'est extraordinaire. Et puis commencez à décliner les choses. Puis l'enfant, vous regardez. Qu'est-ce qu'il a, papa? Bah oui, mais vous adorez la créature. Vous dites, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. L'enfant, il va voir ça. Il va avoir envie de faire la même chose. Vous voyez, c'est des choses pratiques. De voir que vous êtes en adoration devant ce que Dieu fait. Quoi. Un adorateur. Ça, l'enfant, il aura envie. Vous voyez. Mais c'est ça, quand tu marcheras le long d'une route, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, voilà, c'est toute une occasion de se réjouir de la présence de Dieu. L'histoire hébraïque nous montre que le Père, en priorité sur la mère, c'est très important, en priorité sur la mère, c'est le rôle du Père. Pourquoi ? Parce qu'Adam a été formé le premier. Hein. On en a parlé jeudi dernier. Adam était formé le premier, il a reçu le mandat de s'occuper de sa famille et de respecter la parole. Ce n'est pas Ève qui l'a reçu, c'est Adam. Tu respecteras la parole. Et vous avez vu que dans Genèse, il ne l'a pas fait. Il n'a pas repris sa femme. Il a mangé du fruit. Et c'est lui qui avait reçu le mandat. Et donc, dans l'histoire hébraïque, dans la tradition hébraïque, c'est le rôle du père qui doit instruire ses enfants. Avec sagesse. C'est vrai que dans notre société, mais il y a des raisons sociologiques à ça. Hein. Si vous lisez les sociologues, ils vont vous expliquer que les deux guerres mondiales ont complètement détruit la famille à cause, je ne sais pas combien de millions de morts il y a eu, hein, des hommes, des pères qui sont morts. Et c'est les femmes qui ont dû prendre le relais, mais c'est à cause de la dévastation de la guerre, quoi. C'est pas, c'est dramatique. Donc c'est pas un modèle à suivre. Hein. On va suivre ces modèles-là par défaut. Mais la Bible demande que le père instruise l'enfant en premier. Il doit instruire ses enfants avec sagesse et diligence dans les voies et les paroles du Seigneur. Les paroles du Seigneur, pas ses paroles à lui. Il doit les emprunter à la parole pour parler, voyez, pour leur propre développement et leur bien-être spirituel. Le Père doit être obéissant au commandement de Dieu, des Écritures. Et le point essentiel de ce passage, c'est que les enfants soient élevés dans l'éducation et dans la discipline du Seigneur. Dis-le à ton voisin, ton voisine, la discipline du Seigneur. Dis-le. C'est pas la discipline, point. Hein ? La discipline. Je veux de la discipline, hein. On n'est pas dans l'armée là, hein. Non. La discipline du Seigneur, c'est un autre type de discipline, hein. Parfois plus exigeante, mais beaucoup plus dans la compassion et dans l'amour. Discipline du Seigneur, telle est la responsabilité du père du foyer. Proverbe, chapitre 22, 6 à 11, nous dit au verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. » Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc la phase de l'enfance est très importante pour lui donner un capital de ne pas se détourner de la voie du Seigneur. L'instruction implique la première éducation qu'un père et une mère doivent donner dès la jeunesse de l'enfant. Cette éducation doit ouvrir l'enfant à une conduite de vie. Vous voyez ? Ce n'est pas de lui apprendre les mathématiques par cœur ou de jouer des violons comme, voilà, je ne sais pas quel violoniste. Enfin, voilà, bon, tout ça, pourquoi pas, hein. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Hein. Ou de dire bonjour madame, bonjour monsieur, bon, c'est bien. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est lui apprendre à se comporter dans la vie comme la parole le demande. Pour lui permettre d'entrer dans sa destinée, que le Seigneur a prévu pour lui. Initier l'éducation d'un enfant de cette manière est de la plus grande importance, à l'image de l'arbre qui qui continue à pousser. Voyez-vous, c'est un arbre, moi j'ai des petits arbres chez moi, ils commençaient à pousser par terre. Donc j'ai mis un tuteur pour qu'ils soient verticaux, parce que un arbre à l'horizontale, c'est pas tout à fait l'idéal pour porter des fruits. Donc j'ai mis un tuteur pour qu'il reste à la verticale. Et maintenant, petit à petit, je vois qu'il reste là, parce que voilà, il est attaché. Mais plus tard, je vais enlever le tuteur et il sera grand, vous voyez. Donc c'est bien de donner la direction au départ, hein, la verticalité. Un passage du Nouveau Testament donne une image claire des instructions du Seigneur au Père en relation avec l'enfant. C'est Éphésiens 6, verset 4. Il est dit, et vous, Père, n'irritez pas vos enfants, mais, parce que souvent on s'arrête là, hein. Voilà. La femme dit au Père, ouais, n'irritez pas les enfants, mais lisons la suite. N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Dis à ton voisin, en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Les instruisant selon le Seigneur. Nous avons un grand défaut, vous comme moi, hein, c'est souvent on arrête des versets un peu avant la fin, hein, en les instruisant, en les corrigeant. Non, selon le Seigneur, ça change tout. Eh? Selon le Seigneur. Ils n'ont pas compris. Selon le Seigneur. Ces petits qualificatifs-là sont capitaux, hein, selon le Seigneur. En résumé, les instructions données aux parents, représentées ici par le Père, bien sûr, la mère n'est pas exclue, hein, mais dans les recommandations bibliques, le Père, justement, il est cité. Comme celui qui est responsable en tant que parentalité, c'est-à-dire qui doit entraîner son épouse, entraîner sa femme avec lui. Mais c'est toujours au Père qu'on s'adresse, et c'est pas pour rien, parce que notre Père céleste, et Satan veut toujours, 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 toujours enlever la notion du Père et mettre à la place la notion de la mère. Pourquoi? Parce que la notion de la mère, c'est une notion panthéiste. Panthéiste, ça veut dire la nature. Voilà. Et donc, il nous ramène toujours à la nature, à nous-mêmes. Et à nous-mêmes, c'est toujours l'adoration du sexe, hein, l'adoration de soi-même. Et on est complètement piégé par ces choses-là, c'est le panthéisme. Et aujourd'hui, le Nouvel Âge, c'est complètement panthéiste. Et tout le panthéisme nous ramène toujours à la mère. Non, c'est le père. Il faut que le père joue ce rôle pour contrer toute la vague de déferlement satanique, hein, qu'il y a sur, hein, notre société. Et vous, père, n'irritez pas vos enfants par une attitude mal adaptée. L'irritation vient d'une mauvaise adaptation de l'instruction, de l'éducation. C'est rare qu'un enfant irrite, un père irrite un enfant exprès. Bon, ça s'appelle un sadique. Mais je n'ai pas imaginé que quelqu'un soit sadique comme ça, bon, surtout un chrétien. Mais il irrite en n'étant pas adapté correctement dans sa manière d'agir avec l'enfant. Donc l'irritation, il ne faut pas le voir comme quelque chose de très négatif. Ouais, tu irrites. Non, c'est mal adapté. C'est mal adapté. Donc adaptons. Voilà, maladroit. Adaptons mieux. Et c'est pas facile, hein. C'est que Florence, c'était pas facile, hein. Je vois que Michel est revenu, donc là, je suis sous contrôle, hein. Mais elle aussi, elle n'était pas adaptée, hein. Ah ouais, je cite les défauts, hein. Heureusement qu'il avait sa mère, hein. Sa mère, un jour, lui dit, bien là, ma fille, faut que je te parle. Non, elle ne faisait pas comme ça. Mais elle dit, tu sais, si tu continues comme ça, tu vas perdre ta fille. Eh oui, ma belle-mère, attention, hein, c'est une femme de prière, elle a des discernements, hein. Elle ne laissait pas, même les grands hommes de Dieu, elle leur disait, quand Dieu lui parlait, elle le disait. Hein. Accepter ou pas accepter, ce n'est pas son problème. Oui, c'est l'autorité. Hein, voilà. Et elle a dit, si tu continues comme ça, tu vas perdre ta fille. Pourquoi? Tout simplement parce que Michel n'avait pas réalisé que les filles, ça ne s'élève pas comme les garçons. Eh bien oui, il y avait deux garçons qui précédaient. Paf, paf, paf. Bon, ça marchait, tout. Ouais, bah, c'était bien adapté. Et là, c'était plus adapté. Quand il disait quelque chose pareil que les garçons, il commençait à mentir, à mentir. Dit, bah oui, dit, ouais, c'est moi, ceci, cela. Enfin bon, et monter, voilà. Mais pourquoi il montait? Parce que c'était pas adapté. Pardon? À cause de la peur. Voilà. Mais oui, il fallait s'adapter. Bon, heureusement, la belle-mère était là, et elle a corrigé les choses. Et voilà. Et Florence a été sauvée. Sauvée par sa grand-mère. Voilà. Donc, quelque chose de mal adapté, ça irrite. Ça irrite. Ça amène une rancœur. Ça amène voilà, quelque chose, un mal-être, un vague à l'âme. Vous voyez? Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Élevez-les en leur donnant une éducation et une discipline inspirées du Seigneur. Voyez-vous, ce que ma belle-mère a dit, c'était inspiré du Seigneur. Parce qu'elle était toujours dans la prière, toujours dans la recherche de ce que la parole disait. Elle-même avait une enfance dysfonctionnelle, mais avec la parole, elle trouvait la manière d'agir avec les enfants. Obéissance, connaissance de la parole. Voici ce que la Bible dit sur la responsabilité du père dans l'éducation des enfants. Ce verset indique qu'un père ne doit pas provoquer de réaction mauvaise chez ses enfants, soit par une sévérité excessive, soit par une injustice, sa partialité ou l'exercice déraisonné de son autorité. C'est pas facile, mais c'est important. C'est important. Oui, il faut beaucoup de sagesse, il faut beaucoup de prières, il faut beaucoup de temps dans la présence du Seigneur pour trouver cela. Parce qu'un enfant, c'est une personne. C'est pas juste un enfant, gamin, machin. Non, c'est une personne qu'il faut respecter. Vous voyez. Et donc, la vision de l'enfant, et beaucoup de mères, aujourd'hui, démissionnent dans leur fonction de mère. Pourquoi? Parce que c'est une véritable catastrophe. Parce que les femmes, entre elles, disent: ouais, tu vas pas rester chez toi, c'est quoi ça? C'est pas un métier ça. Un métier, voilà, tu as l'avancement, tu as de la promotion, tu as les machins. Voilà, ça c'est valorisant quoi. Voilà, donc on dévalorise le rôle de la mère au foyer. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Pourquoi? Parce que l'enfant n'est plus considéré à sa hauteur. C'est-à-dire que voilà, le métier de la mère est plus important que l'enfant. C'est ça que ça veut dire. L'enfant, il comprend, hein. Donc c'est dramatique. Bon, parfois il faut être obligé de travailler, c'est pas le problème. Mais je veux dire, il faut comprendre que l'ennemi veut détruire la société en ne considérant pas les personnes humaines comme des vraies personnes, y compris les enfants. Donc le père a cette fonction très difficile, très délicate, de trouver, alors avec sa mère, hein, avec sa femme, hein, j'associe maintenant les deux, dans la prière, la manière dont on élève les enfants. À un autre moment, c'est arrivé que voilà, nous on est en plein dans la forêt, donc on est un peu isolés. Et les seuls enfants qu'il y avait pour nos enfants, c'était le voisin, qui avait aussi deux garçons exactement du même âge que les nôtres. Donc c'est normal qu'ils jouent ensemble. Voilà. Et à un moment donné, ma belle-mère, une fois de plus, paf, quelque chose qui ne va pas là. Parce qu'elle discernait les choses. Elle dit, ça va pas, hein. Tu ne vas plus laisser cet enfant venir chez toi pour jouer avec lui. Bah attends, elle est déjà isolée. Si en plus on s'isole, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont devenir complètement voilà, autistiques, etc. Voilà. Bah oui, non, mais, vous voyez, quand vous êtes confronté à ce genre de conseils, vous vous posez des questions. On a prié et on a vu qu'elle avait raison. Et on a interdit qu'ils jouent ensemble. Et on a bien fait. Parce qu'après, le garçon, il est entré dans les jeux de rôle, dans les trucs, il est parti dans des. Dans un trip à côté. Mais on ne pouvait pas le savoir, il fallait du discernement. Oui. Mais grâce à ça, on a protégé les enfants. Oui. Donc il faut du discernement. Il faut toujours être à l'écoute du Seigneur pour faire des choix, selon le Seigneur. Dis à ton voisin, selon le Seigneur. Hein? Et oui. Instruction selon le Seigneur, des choix selon le Seigneur. C'est ça. C'est une application pratique. C'est pas juste, voilà, un enfant, voilà, on l'élève comme les petits lapins, non. C'est pas un petit lapin, hein. C'est une personne qu'il faut respecter. et on lui donne le meilleur de ce qu'on a. Donc, une telle conduite envers ses enfants, d'irritation, enfin de mauvaise adaptation, conduira à la tristesse. L'enfant peut être triste de voir qu'il n'est pas bien considéré. Ça peut être aussi jusqu'à la rancune dans son cœur. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc le côté positif de l'éducation, c'est de les éduquer, de les élever, de développer leur conduite dans tous les aspects de la vie par l'éducation et la discipline inspirée par le Seigneur. L'instruction d'un enfant doit être un processus complet d'éducation et de discipline. Le père devant avant tout être un modèle. Waouh. Alors vous voyez, ça, c'est le sommet là. C'est-à-dire, avant de donner des instructions qui sont bien et tout ça, il doit être un modèle. Et vous savez, il n'y a rien de pire que les enfants qui entendent des choses qui peuvent être très bien des parents, hein, là, j'implique les deux, hein, père et mère, et que les parents font l'inverse, ils ne sont pas des modèles. Alors là, je peux vous dire que les enfants, il faut les récupérer par un. Et c'est normal. C'est normal. Si vous dites quelque chose, vous ne le faites pas, l'enfant, il va le voir. Ah bah oui, il le dit, mais il ne le fait pas. Bah donc moi aussi, je fais pareil. Je le dis et je ne le fais pas. Et à ce moment-là, vous développez l'hypocrisie, vous développez des discours et des comportements qui sont opposés à ces discours et vous faites des hypocrites. Donc vous fabriquez des hypocrites. Vous voyez, c'est, ça va très loin. Et le père doit suivre le modèle de Jésus. Eh oui, il y a un modèle, Jésus. Comment est-ce que Jésus s'est comporté? Je veux me comporter comme Jésus qui m'a donné un modèle. Donc le mot discipline transmet l'idée de mettre l'enfant dans un état d'esprit qui correspond à lui rappeler les erreurs. Il doit savoir ses erreurs qu'il a fait de manière constructive sans le culpabiliser, mais aussi ses responsabilités. Et même tout petit, déjà, il a des responsabilités. Et petit à petit, il va apprendre à assumer ses responsabilités pour plus tard. Donc les enfants ne doivent pas grandir sans jamais être repris dans leur comportement. Ils doivent être instruits, exhortés, disciplinés pour atteindre la connaissance, la maîtrise de soi et l'obéissance. Tout ce processus d'éducation se fait au niveau spirituel selon les valeurs du royaume et non pas selon les critères de la culture ou, pire, de la tradition familiale. Parce qu'on a toujours fait comme ça, etc. Non, c'est l'éducation et la discipline du Seigneur qui est la seule manière efficace d'atteindre l'objectif souhaité pour faire des hommes et des femmes de Dieu. Tout autre substitut au moyen d'éducation va mener à des échecs désastreux, souvent irréparables, à cause des blessures qui ont été données à l'enfant et qui sont parfois impossibles à rattraper. L'élément moral, c'est choisir le bien et le mal. C'est important, ça. Il faut savoir choisir le bien et le mal. Et spirituel, c'est plaire à Dieu. Donc l'élément moral et spirituel de notre être est un capital plus important que l'intellect. Aujourd'hui, le monde met plus d'importance sur l'intellect, parce que dans l'école, il faut être le meilleur de sa classe, il faut être le meilleur en mathématiques, en machin, etc. Voilà, intellect, 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 intellect. Est-ce que les chrétiens suivent le même modèle ou est-ce qu'ils mettent d'abord l'élément moral et spirituel avant l'intellect? C'est ça qui est important. La spiritualité est aussi nécessaire à notre développement que la connaissance. Proverbe nous dit que la crainte du Seigneur est le début de la connaissance et de la sagesse. Le père chrétien peut être vraiment et doit être un instrument entre les mains de Dieu pour ce qui concerne la démonstration de la vraie paternité, celle que Dieu a conçue. Puisque le christianisme est la seule religion vraie, que Dieu en Jésus-Christ est le seul vrai Dieu, la seule instruction profitable est l'éducation et la discipline selon le Seigneur. Tout ce processus d'instruction et de discipline doit être celui que Dieu a prescrit et qu'il administre pour que son autorité soit constamment et immédiatement rappelée à l'esprit et le cœur et la conscience de l'enfant. Voyez-vous ? Éduqué de cette manière-là, l'enfant va immédiatement se rapporter au Seigneur. Pas à vous, mais au Seigneur. Et là, vous avez gagné votre éducation. Si c'est à vous, ah, il a peur de vous. Non, Il doit avoir peur du Seigneur, enfin, crainte du Seigneur. Voyez. Si c'est une crainte de l'homme, là, tout est perdu et vous n'avez que des problèmes à attendre. La vraie paternité montre le chemin vers le Seigneur. Le père humain ne doit jamais, 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 jamais se présenter comme l'autorité ultime. Ce n'est pas l'autorité ultime, c'est Dieu l'autorité ultime. C'est une autorité intermédiaire, une autorité de transmission, une autorité qui conduit à l'autorité ultime qui est Dieu, pour déterminer ce qui est vrai et ce que les devoirs et les droits. Parce que si le Père développe l'autorité ultime, la crainte du Père, la peur du Père, tout ça, qu'est-ce que ça développe? Ça développe chez l'enfant des aspects humains du moi. Voyez, parce que le moi est présent. Et à ce moment-là, lui aussi va développer son moi. Alors qu'on doit développer la crainte du Seigneur. C'est seulement quand Dieu en Jésus-Christ est l'enseignant et le maître, donc nous, on doit être en Jésus-Christ pour être ce Père qui transmet vraiment l'autorité ultime. Et c'est là qu'on repose la foi et l'obéissance, parce qu'en lui, tout est fait, tout est accompli. Et nous pouvons le faire en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il faut le faire dans le Seigneur. Le Père doit rester toujours dans l'humilité. Il doit accepter ses erreurs, y compris devant l'enfant, pour lui montrer que lui aussi est faillible. Hein, et que lui aussi s'humilie, que lui aussi se repent, que lui... Voilà. Tout ça, ça fait partie du modèle. Hein. Donc, c'est vrai que les instructions sont claires, mais ils ne sont pas forcément toujours, disons, atteignables. Mais ce n'est pas pour autant que la Bible ne dit pas vrai. Moi-même, en tant que père de deux garçons puis une fille, je n'ai pas réussi à atteindre cet idéal que je vous expose ce matin. Mais c'est, néanmoins, ce n'est pas parce que je ne l'ai pas atteint qu'il ne faut, faut pas chercher à l'atteindre. Voyez, tout le monde est perfectible. Et il faut qu'on soit dans cette orientation de toujours faire mieux. Ça n'invalide pas les Écritures et ça doit pousser à chercher l'instruction auprès du Seigneur pour chacun de nos enfants. Le mot irrité signifie provoquer, exaspérer, agacer, inciter à la révolte, etc. C'est provoqué par une attitude de pédagogie mal adaptée, à savoir une trop grande sévérité, laxisme, une certaine irrationalité, une forme de dureté, des demandes exagérées, des restrictions inutiles et pas toujours justifiées, une insistance parfois égoïste qui se manifeste par l'autoritarisme. C'est l'amour de l'autorité. Il faut que j'exerce l'autorité. Non, il ne faut pas. Il faut être l'autorité, mais il ne faut pas l'exercer, c'est l'autoritarisme. Donc de telles attitudes produisent chez l'enfant des réactions malsaines et elles tuent l'affection et le désir d'un rapprochement naturel envers le Père. Vous voyez, c'est en fait, on arrive à l'inverse de ce qu'on veut. On voudrait que le Père voudrait attirer l'enfant, et en fait, en faisant ça, il le repousse. Il faut provoquer le désir d'obéir, le désir d'avoir envie de, le désir d'avoir. Vous voyez, c'est ça. C'est étonnant parce que le monde, il a compris ça dans le management, ils disent gagnant-gagnant, quoi. Voilà. Et nous, on fait gagnant-perdant, quoi. Non, il faut provoquer le désir chez l'enfant d'obéir. Et c'est pas facile, ça éprouve notre patience. Voilà, parce que cette manière d'irriter, ça tue l'affection, le désir de ce rapprochement. Elle détourne du désir de mieux faire. Ils disent, si j'y arrive pas, c'est pas la peine, je vais même pas essayer, j'y arriverai pas, et j'abandonne. Vous voyez, donc vous provoquez le découragement. Et le sentiment qu'il ne pourra jamais contenter ses parents. Alors que l'idée, c'est pas de contenter les parents, c'est de contenter le Seigneur. Parce que c'est l'instruction du Seigneur, vous voyez. Mais on n'est pas sur la bonne longueur d'onde. Et il se décourage. Et ne soyez pas surpris que l'enfant se décourage si vous vous y prenez mal. Un parent sage cherche à rendre l'obéissance désirable et atteignable. Atteignable, il ne faut pas que les exigences soient trop élevées. Hein, si vous leur dites de lire 2 chapitres par jour tous les matins, vous voyez, non. S'il y a un verset, ou, voilà, il faut adapter. Les parents ne doivent pas être plus durs que le Seigneur, lui-même, qui use de grande compassion envers nous. Dis-le à ton voisin, le Seigneur use de grande compassion pour toi. Rappelle-toi ces choses. Je terminerai par ce verset de Timothée, 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre. Vous voyez, sa sagesse. Afin que l'homme ou la femme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé à faire toute action bonne. Ça, c'est l'objectif de l'éducation d'un enfant par des parents chrétiens. Amen ? Vous dites amen ? Donc, que les pères s'appuient davantage sur la parole de Dieu que sur leur propre parole. Et cela donnera à l'enfant une attitude juste pour se référer à la parole. Le père joue le rôle de modèle paternel du père, qui enseigne à ses enfants comment se positionner dans la vie terrestre. Quoi qu'ils fassent par la suite, ils auront appris à aimer le Seigneur, leur Dieu et sa parole, de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force, qu'ils l'auront vu chez leur père. La paternité, selon la Bible, doit contribuer aussi à aider l'enfant à quitter le foyer, je l'ai déjà dit, à quitter la solidarité parentale pour établir une conjugalité, une nouvelle solidarité, un nouveau projet. Et cette démarche de quitter doit commencer très tôt. Et c'est le rôle du père de l'aider à le faire. Chez les Juifs, à 13 ans, c'est établi, c'est clair. L'enfant déjà est avec le père dans la société. Et cela évitera une crise d'adolescence. Ne cherchez pas les crises d'adolescence. Il n'y en a pas si vous faites ça. Il n'y en a pas. Malgré ce que le monde dit, il n'y en a pas. C'est vrai que nous, on n'a pas connu nos enfants de crise d'adolescence. Merci Seigneur. La paternité bien vécue fera des enfants des vis-à-vis à l'âge adulte, des futurs collaborateurs dans l'œuvre de Dieu. Timothy Keller, un pasteur de New York là, que j'aime beaucoup, à la fin, il fait un épilogue, donc il termine son livre en remerciant un certain nombre de choses, bien sûr, son épouse, un tas de gens, etc. Mais ce qui m'a beaucoup touché, c'est qu'il remercie ses trois garçons. Il dit, voilà, je remercie particulièrement mes trois garçons, David, Michael et Jonathan, de m'avoir autant aidé et de m'avoir fourni d'aussi bonnes suggestions pendant la rédaction de ce livre qui a pris plus de 4 ans. Il passait beaucoup de temps avec ses garçons quand ils étaient déjà adultes, hein, 30, 35 ans, sur le bord de la rivière pour discuter de son livre, qu'est-ce que t'en penses, pour adapter tout ce qu'il a écrit à la vie moderne. Voilà. Et voilà, c'est des partenaires dans l'œuvre de Dieu, dans son travail. Et ça, c'est un modèle de père. Les enfants doivent être considérés comme les premiers investissements de notre vie, avec le désir qu'ils aillent plus loin que nous. Ils doivent être en quelque sorte un prolongement de notre œuvre pour aller plus loin que nous. Et quand on a ce projet-là, quand on a ce désir-là, on voit les choses autrement. Et alors là, on peut être un père selon le cœur de Dieu. Que Dieu nous vienne en aide. Ce n'est que par sa grâce qu'on peut y arriver. Et Dieu fera le reste. Amen. À lui seule la gloire. Amen. Je voudrais inviter les pères pour qu'on puisse prier. Et je demanderai peut-être aux mères de prier pour nous, Michel en premier. Et si quelqu'un veut se joindre à Michel, on va recevoir la prière de votre part. Priez bien. Voilà, je laisse le micro à Michel.
Seigneur, nous te remercions pour les pères qui sont dans l'église aujourd'hui et nous te prions aussi pour ceux qui sont absents en vacances ou à l'extérieur, que Seigneur, ils soient associés à notre prière ce matin. Et Seigneur, tu connais les charges qui posent sur chacune de ses épaules. Et parfois c'est trop lourd, c'est trop compliqué, c'est écrasant. On ne sait pas par quel bout prendre les choses et on n'ose pas toujours le dire. Seigneur, nous te prions pour chacun des pères, afin qu'ils puissent déjà crier à toi. Dans ces moments où le fardeau est trop lourd, où on ne sait plus où donner de la tête, Seigneur, que vraiment ils aient le réflexe. Ils crièrent à l'Éternel et il leur répondit. Seigneur, on voit ce verset partout dans les psaumes, et que vraiment ils aient ce réflexe de crier à toi et de ne pas essayer humainement à la force du poignet, avec toute la fierté masculine, d'essayer de s'en sortir par eux-mêmes, Seigneur. Seigneur, donne-leur la grâce de crier à toi, de crier à toi pour demander ton aide. Et Seigneur, ta parole nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le retire de toutes ses détresses. Seigneur, vraiment, nous croyons que tu vas les aider à avoir ce réflexe. Quelles que soient les charges, quel que soit l'âge, Seigneur, les charges sont toujours là. Que vraiment, Seigneur, tu bénisses chacun des pères ici. Et qu'ils puissent cultiver cette relation avec toi, où ils vont crier à toi, toi le Père Céleste qui prend soin d'eux, qui vient à leur secours. Ta parole nous dit, voici, je viens à ton secours, ne crains pas. Et que vraiment, Seigneur, ils ne soient pas dans la crainte, malgré tout ce qui peut peser au niveau du travail, au niveau de la famille, parfois au niveau de l'argent, au niveau des soucis familiaux. Seigneur, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, merci parce que tu es celui qui peut leur donner du repos. Tu es celui qui apporte l'aide, le secours, les bonnes idées, les bonnes façons de faire. Seigneur, qu'ils puissent s'en remettre à toi, à ta parole, afin de faire ta volonté, dans les petites choses de chaque jour, comme dans les grandes, afin de résister à l'ennemi aussi. Tu nous dis, Seigneur, de résister au diable, et il fuira. Que vraiment tu leur donnes cette capacité de résister à l'ennemi, et de se confier en toi, Seigneur. Parce que tu es le Dieu des victoires. Amen.
Béni sois-tu, Père éternel. Merci, Seigneur, pour ton amour infini. Merci d'avoir inspiré André pour ce message aussi, Seigneur. Parce que nous pouvons dire des fois que oui, nous avons déjà des grands enfants et que ça ne nous concerne pas. Mais non, tout nous concerne aussi, Seigneur. Merci pour ces papas que nous avons devant nous, Seigneur. Merci pour ce qu'ils sont devant toi aussi, Seigneur. Merci, Seigneur, de leur donner encore un nouveau départ. Qu'ils puissent encore repartir avec toi, quel que soit leur niveau, Seigneur. Qu'ils puissent vraiment repartir avec toi. Merci de leur inspirer la sagesse dont ils ont besoin, la souplesse dont ils ont besoin, l'amour dont ils ont besoin. Et là où ils ont failli, tu peux également les relever pour qu'ils puissent encore avancer, car avec toi, il n'est jamais trop tard. Merci Seigneur de poser ta main sur chacun individuellement. En tant que père de famille, Seigneur, de les ressourcer, de leur donner encore plus de joie, plus de paix, plus d'amour, et qu'ils puissent avancer encore main dans la main avec toi, dans le nom de Jésus. Amen.
Merci Seigneur, parce que malgré la grande tâche dont André vient de décrire, tu es le seul qui puisse transformer nos échecs, nos manquements en réussite, nos malheurs en victoire, tout ce dont nous n'arrivons pas, toi tu peux le transformer en réussite et victoire. Merci Seigneur pour cela.
Merci papa, parce que tu es notre papa du ciel, grand modèle. Et je te demande que chacun de ces papas puisse avoir aussi le privilège d'être à la fois ce père terrestre, mais à la fois oser redevenir par moments le petit garçon qui se blottit dans les bras de son papa céleste. Pour être consolé, pardonner, repartir avec l'assurance de ton amour, l'assurance de ton secours. Pour être, suivant ton modèle, ce père selon ton cœur, sur cette terre. Pas seulement pour chacun de leurs enfants physiques, mais aussi être des pères pour cette génération. Amen. Seigneur, équipe chacun d'eux dans une relation profonde, toujours plus profonde avec toi. Pour être, non seulement pour leurs enfants, des modèles, mais être des modèles dans cette génération qui reflètent ton cœur. Au nom de Jésus. Amen.
Oui, Hélène a dit exactement ce que je voulais dire, et c'est vraiment que le secret, c'est dans ta présence, la présence du Papa. Seigneur, merci parce que tu veux tellement honorer ces pères et honorer cette relation qu'ils ont avec leurs enfants. Et Seigneur, merci parce que tu veux d'abord les prendre tout près de toi et que cette relation père-fils, même si les relations avec les pères, leurs pères n'étaient pas parfaites, Seigneur, tu peux faire toute chose nouvelle. Et oui, Seigneur, merci à partir de maintenant, d'instaurer une relation tellement, tellement proche, tellement profonde avec tes fils là. Et le reste, oui, merci Seigneur, ça viendra. Amen.
Voilà, merci.